Vous êtes sur RTL.
Tout à l'heure.
On refait le match sur RTL.
Avec Florian Gazan.
Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver pour On refait le match, le dernier de la saison, car si les joueurs de Ligue 1 et de Ligue 2 ont déjà repris, nous on n'a pas encore arrêté. Alors avant cette petite pause estivale, car on revient déjà, notez-le, le samedi 7 août, on a beaucoup de sujets à évoquer, des sujets aussi brûlants que le sable à 14h quand marcher dessus sans ses tongs devient un acte suicidaire et qu'on sprint vers la mer en faisant des petits cris de douleur. Comme ça, voilà. On va parler de Didier Deschamps, maintenu à la tête des Bleus malgré un euro raté, de la finale justement de cet euro, un excitant Angleterre-Italie à suivre demain soir à partir de 21h en direct sur RTL. Et puis, la saison prochaine en ligne de mire avec le Mercato. Le PSG et l'OM sont très actifs. La légende Sergio Ramos s'est notamment engagé jeudi avec le club parisien. Quant aux Marseillais, ils recrutent jeunes, talentueux et surtout nombreux. Ça régénère sur la Canebière. À mes côtés, ce soir, pour On refait le match, une équipe prête à en découdre. Cette nuit, je sais déjà où elle sera. Devant sa télé pour la finale de la Copa América Brésil-Argentine, Cindy Colmenares, bonsoir.
Bonsoir à tous. J'ai appris cette semaine que le football est un sport qui se joue avec deux ballons.
Ah oui, c'est vrai. Mmh. Ou alors c'est un arbitre qui voit double. Il va peut-être vivre le plus beau dimanche de sa vie si l'Italie remporte l'Euro. David Aiello de la chaîne L'Équipe. Bonsoir David.
Bonsoir Florian, bonsoir à tous.
Il a écrit le guide de l'Euro 2021 dont on tournera la dernière page demain soir, mais vous pourrez encore l'acheter après normalement. C'est ça. Xavier Barret, bonsoir.
Salut Florian, bonsoir à tous.
Ça va bien. Et enfin, celui qui tacle avec sa bouche, le Sergio Ramos du micro, Gilles Verdez, bonsoir.
Bonsoir.
On a deux Sergio Ramos du coup dans le championnat de France maintenant, c'est luxueux. Sans oublier vous qui refaites le match avec nous sur les réseaux sociaux, les comptes Twitter et Facebook RTL Foot avec Baptiste Durieux pour relayer vos questions et vos réflexions. Un salut à Damien Béchiot, le réalisateur de l'émission. Vous êtes bien sur RTL et nous aussi, on y est bien avec vous.
On refait le match.
Florian Gazan sur RTL.
Après l'équipe, le sommaire. Didier Deschamps, et non pas Didier, démite ses fonctions. Quelle décision doit-il prendre pour relancer les Bleus? Le Mercato, le PSG qui envoie du lourd avec l'arrivée de Sergio Ramos. En attendant, pourquoi pas Pogba? N'y a-t-il pas un risque de guerre des étoiles à Paris et qui sera Dark Vador? L'OM recrute beaucoup et malin avec Guendouzi, Gerson et des jeunes joueurs prometteurs en quête de rebond. Pensez-vous que ce Marseille qui fait des paris sera magique? Antoine Griezmann dans la tourmente après la publication d'images de 2019 postées sur les réseaux sociaux où on le voit rire de propos jugés racistes sur les Japonais. Manque de bol, c'est la nationalité du sponsor principal du Barça. L'avenir de notre grisou national est-il en danger? Et puis Messi au chômage, mais non, Messi, l'Argentin est sans club depuis une semaine. Je vous demanderai de jouer les conseillers Pôle emploi de luxe. Mais pour commencer, demain soir, c'est la finale de l'Euro, Angleterre-Italie à Wembley. Est-ce que cette finale, si on met les Bleus de côté, c'est la finale de rêve pour cet Euro? Vous me répondrez dans un instant. À tout de suite pour refaire le match sur RTL.
On refait le match sur RTL. Florian Gazan sur RTL.
On refait le match.
On refait le match sur RTL jusqu'à 20h avec Cindy Colmenares, David Aiello, Xavier Barret et Gilles Verdez. Demain soir, le football a rendez-vous avec son histoire. L'Angleterre joue sa première finale d'un grand tournoi depuis 1966. J'avais moins deux ans. Et l'Italie se retrouve en finale d'un euro pour la première fois depuis 1968. J'avais six mois et je tournais plus au lait qu'à la bière. Angleterre-Italie, est-ce que c'est la finale de rêve de cet euro? Est-ce que cette finale à Wembley vous Brexite?
Moi j'adore.
Pas ça, Florian Gazan.
Moi je suis hyper excité par le match. Et c'est deux grandes équipes, j'ai l'impression que c'est enfin, on règle footballistiquement un contentieux historique. Il y a eu 27 confrontations, mais il y a eu une troisième place d'un mondial, il y a eu un quart de finale d'Euro, mais on attendait ce grand match en finale. Et voilà, on y est. Je trouve ça passionnant. Entre l'Italie qui nous a séduit et puis l'Angleterre qui est chez elle, pour moi, c'est la finale de rêve.
Oh, elle est bien chez elle, l'Angleterre. C'est le moins qu'elle puisse dire, parce que l'Angleterre, elle a joué quasiment tous les matchs à la maison.
7 sur 8.
Ouais. Oui, mais c'est quand même une finale historique aussi, parce que ça fait quand même 5 ans. Qui n'arrivait pas en finale et surtout depuis 1966 l'Angleterre ne s'est mis aucun trophée sous la dent, donc vraiment pour leur permanence c'est génial et avec en face une équipe italienne qui nous a véritablement séduit avec des joueurs jeunes, vaillants, avec un Mancini qui porte cette équipe, voilà, je pense que ça sera vraiment une finale qui nous mettra plein d'étoiles sous les yeux.
Ouais.
Après, faut quand même préciser deux, trois choses. Les Anglais, en finale, finalement, une seule fois dans leur histoire, en 1966.
Ils l'ont gagné.
Ils l'ont gagné. Mais c'est parce que déjà, les premières Coupes du Monde, ils n'y participaient pas, puisqu'ils sont venus à la Coupe du Monde pour la première fois en 1958, en 1950, avant, ils n'y étaient pas. Et le premier Euro, non plus, ils ne l'ont pas disputé. Parce que ce n'était pas de leur dignité, en fait. Ils étaient les inventeurs du football, donc ils n'allaient pas les se mesurer aux autres. Le football, ça se passait chez eux. Donc c'est pour ça que forcément, au palmarès, ben, les premières Coupes du Monde gagnées par l'Italie, l'Angleterre n'y était pas. Elle ne la jouait pas. Voilà. Donc ah,
c'est
forcément
depuis
oui,
du temps.
Et le deuxième élément sur lequel je voulais venir quand même, c'est que c'est l'équipe qui s'est fait le plus voler dans l'histoire des grandes compétitions ces dernières années. Ils ont quand même un sacré déficit. La main de Maradona en 86.
Quelle main?
La main de Maradona en 86 à Mexico.
Bon,
ils se font éliminer. Le carton rouge à Beckham en 98 ici en France. Ils finissent le match à 10 alors que Owen avait enrhumé les Argentins. Ils se font encore éliminer. Le huitième de finale contre l'Allemagne en Afrique du Sud en 2010, avec le but de Lampard qui n'est pas validé alors qu'il a franchi la ligne. Ils se font encore éliminer. Donc, si vous voulez, dans l'histoire du football récent, les Anglais sont souvent fait voler. Alors là, effectivement, ils ont eu un coup de pouce de l'arbitre, c'est vrai. Mais
ils ont un coup de pouce du Covid, c'est le meilleur joueur anglais de la compétition.
7
matchs sur 8 à domicile.
Non, alors ça, c'est aussi autre chose. C'est parce qu'il faut rappeler, c'est que Londres a été repêché pour organiser les matchs que Bruxelles ne voulait pas. Parce qu'au départ, quand l'UEFA donne l'Euro 2020 en 2012, donc quand il donne l'Euro 2020, qui a donc lieu en 2021, à différents pays, Bruxelles doit organiser des matchs du premier tour. Et Londres n'organise que la phase finale. Et finalement, Bruxelles se retire, on dit, ben dis donc, vous voulez pas aussi des matchs de poule? Ils ont dit, ben ok, on les prend. Mais c'était pas comme ça au départ.
Et coup de bol, c'est tombé sur l'Angleterre quand même. Ça les a bien arrangés.
Oui, ça les a bien arrangés. Après, il y a Saint-Pétersbourg qui a récupéré des matchs aussi depuis, puisque Dublin s'était retiré. Donc voilà, après, c'était aussi une volonté de l'UEFA d'organiser la phase finale à Londres. Les Anglais ne voulaient pas organiser l'Euro, parce qu'ils veulent la Coupe du Monde. L'Euro, ils ont déjà donné en 96. Ils ont échoué en demi-finale, d'ailleurs, au tir au but. Et donc, là, ils ont dit, on veut bien la phase finale, mais on veut pas le reste. Et finalement, bon, ils ont dit, ok, on veut bien le reste, à condition que ce soit notre équipe chez nous. Bon.
D'accord. Bah donc pour un pays qui est sorti de l'Europe, ils ont quand même beaucoup d'avantages.
Ouais. Moi, je suis désolé, mais dans cette affiche, il n'y a qu'une seule grande nation du football européen, quand on parle de sélection. Non, mais c'est la réalité. Je veux dire, j'entends tous les arguments de notre ami Xavier, mais la réalité, c'est que l'Angleterre, depuis des décennies, en termes d'équipe nationale, je ne parle pas des clubs, mais c'est pitoyable. Je veux dire, il n'y a pas de ressources, il ne se passe rien dans cette équipe. Donc là, effectivement, c'est un petit peu excitant parce que pour une fois, il y a quelques talent et encore que, enfin voilà, je veux dire, c'est pas une équipe non plus, il y a pas 10 talents par ligne, quoi. Donc moi ça me, oui, c'est une affiche quelque part excitante parce que l'Angleterre joue à domicile et voilà, pour une fois qu'ils arrivent en finale, bon, on va voir ce que ça donne, mais moi je considère pas ça comme un événement footballistique. Enfin, je veux dire, depuis, si on prend sur les 30 dernières années, l'Angleterre fait pas partie des grandes nations. Je parle des sélections, fait pas partie des grandes nations européennes.
Eh ben, vous irez pas à Londres en week-end, vous.
Oh. Ouais, mais moi je vous trouve dur parce que l'Angleterre a sauvé l'Euro.
Ce que je dis.
Non, mais l'Angleterre a sauvé l'Euro. S'il y avait pas l'Angleterre, cet Euro c'était un fiasco absolu. Moi j'ai adoré cet Euro, mais s'il y avait pas l'Angleterre, les matchs à Londres, il y aurait eu personne, aucun enthousiasme. Ils ont sauvé l'Euro, les Anglais,
mais
en organisant.
Il y a pas
que.
Les Danois, ils l'ont bien sauvé quand même l'Euro.
Ah non, mais
ça a été la belle histoire.
Pourquoi ils l'ont sauvé?
Bah parce qu'ils ont organisé les matchs, parce qu'ils ont créé du public, parce qu'il y a une excitation, parce qu'il y a eu des polémiques, parce que c'est la résurrection de l'Angleterre à travers, qui se retrouve à travers son équipe nationale.
On
dans
fait
toutes
la même chose à Rome,
il y a plein de trucs.
Il se passe la même chose.
Non, ah bah, je trouve que non. Moi, je dis bravo aux Anglais d'avoir sauvé un Euro, franchement.
Moi, cette équipe d'Angleterre, sérieusement, elle vous fait vibrer, cette équipe d'Angleterre?
Elle me fait vibrer quand elle abandonne cette pitoyable défense à 5, qu'elle joue à 4, qu'elle va vers l'avant, comme elle l'a fait contre l'Ukraine. Alors, c'est vrai que l'Ukraine n'était pas très forte, comme elle a su le faire aussi par moments lors des matchs du premier tour, mais pas sur 90 minutes. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que les Anglais, effectivement, ces dernières années, ils avaient un problème. Ils n'avaient pas assez de joueurs pour faire une équipe nationale. Mmh. Aujourd'hui, il faut rappeler qu'ils sont champions du monde des 20 ans en 2017, champions du monde des 17 ans en 2017, champions d'Europe des 19 ans.
Donc c'était contre les
Vénézuéliens. Donc ces générations, elles arrivent là, elles sont là donc ils ont beaucoup travaillé sur la formation, notamment en prenant des entraîneurs français dans un certain nombre de centres de formation.
Et d'ailleurs, c'est un peu un copier-coller de l'équipe de France 2018.
Exactement. Et donc
ils arrivent
pas par hasard, ils sont récompensés de leur travail. S'il y a une équipe qui arrive effectivement et qu'on n'attendait pas, c'est plutôt l'Italie qui revient de très loin avec des joueurs qui forment un collectif extrêmement méritant.
Tu mettais pas l'Angleterre dans les favoris.
Ah, moi j'en avais fait mon, j'avais donné qu'il gagnait la finale contre la France même. Vous voyez, mauvais patriote, je disais qu'il pourrait battre les Français en finale.
L'Italie non plus.
On n'a pas de très favoris
non plus.
Non, l'Italie non plus.
L'Italie non. Franchement, en plus,
il faut faire attention avec les jeux de l'Italie parce que tout à l'heure vous avez dit à juste titre l'Angleterre elle a tendance parfois à mettre 5 derrière et elle peut avoir tendance à faire un peu comme l'Espagne, c'est-à-dire se libérer, essayer de mettre beaucoup de joueurs vers l'attaque, alors que on sait que l'Italie est une équipe très bien organisée dont la défense est très bonne, même s'il y a eu des loupés contre l'Espagne, notamment avec Morata. Mais voilà, ça peut être justement les talons d'Achille de cette équipe anglaise, ce qui peut faire que l'Italie a beaucoup de chance, en fait, peut-être aussi de l'emporter.
Votre favori pour demain soir, parce que je dis ça parce qu'il y a peut-être des auditeurs qui veulent parier, je ne vous mets pas la pression, mais ils comptent sur vous pour leur payer leurs vacances. Hein, donc, faire un petit tour de table. Bon, David, je ne vous demande pas qui est votre favori.
Non, mais le favori, c'est l'Angleterre à 51-49, quoi, parce qu'il joue à domicile.
Oh, voilà. Les 51-49, ça. Mouille votre chemise, David.
Voilà, non, mais pour moi, c'est un léger favori.
Bon, ça joue quand même. Gilles.
L'Angleterre.
L'Angleterre, Xavier.
Oui, l'Angleterre aussi.
Cindy.
Une surprise de l'Italie.
Une surprise de l'Italie. Bon, donc ça fait plus de 3 Angleterre.
Et
moi, plutôt l'Angleterre. J'ai quand même l'impression que ce Wembley plein, ça peut aider. J'ai l'impression
oui, ça va
que
les favoriser.
Un stade plein, quand on doit siffler un pénalty, j'ai l'impression que ça va être plus l'arbitre.
Voilà, d'accord.
Non, mais bon, ça
joue. En espérant qu'ils siffleront pas ligne, quand même, parce que ça, c'est aussi quand même assez embêtant. Mais en fait, il faut les dire, l'Angleterre et l'Italie, c'est une magnifique finale, mais elle est entourée de beaucoup de choses polémiques qui ne devraient pas avoir lieu. Et c'est pour ça que l'Angleterre fait pas vraiment figure des favoris auprès du grand public et des Européens parce qu'il y a beaucoup des choses autour qui sont vues d'un œil. Voilà.
On verra ça demain soir, en tout cas ce sera à suivre à 21h sur RTL, évidemment avec Eric Silvestro. On refait le match, je reviens dans un instant, on va parler de nos bleus quand même. Didier Deschamps va continuer l'aventure, c'est pas Denis Brogniart qui l'a dit mais Noël Le Graët, et ça s'entend, c'est irrévocable. Que doit changer Dédé pour que la Coupe du Monde 2022 ne se termine pas comme l'Euro 2021? On en débat dans un instant, donc on refait le match sur RTL.
RTL, on refait le match. RTL, on refait le match.
Florian Gazan.
On refait le match sur RTL jusqu'à 20h avec Cindy Colmenares, David Aiello, Xavier Barret et Gilles Verdez. Avant de parler de Didier Deschamps, un petit tour de table quand même rapide. Qu'est-ce que vous avez aimé le plus dans cet Euro? Allez, on commence par vous, Cindy.
Alors, Kasper Schmeichel, j'ai adoré ses 9 arrêts lors du dernier match.
Et
j'ai adoré cette équipe danoise, la façon dont elle s'est vraiment surpassée. Évidemment que l'Angleterre, elle a gagné ces matchs-là et les mérite, mais quand même, bravo aux Danois qui ont donné les meilleurs d'eux-mêmes.
Ok, Kasper Schmeichel et l'équipe danoise. Xavier, vous?
Oui, bah moi, le Danemark, pareil. Pas mieux.
Pour les mêmes raisons?
Oui, cet enthousiasme, le fait de jamais renoncer alors qu'ils avaient perdu les 2 premiers matchs. Hein, c'est la première fois dans l'histoire de la compétition qu'une équipe qui a qu'une seule victoire passe en huitième, mais derrière ils ont justifié cette qualification et puis ce jeu généreux, spontané, ça me rappelait un peu l'Euro 92 qu'ils avaient gagné. Bon, ils sont arrêtés en demi-finale.
La Danish Dynamite et Christian Eriksen qui normalement sera demain soir à Wembley puisqu'il a été invité par l'UEFA. Gilles, vous?
Pour moi c'est Andrei Shevchenko, le sélectionneur de l'Ukraine, et sa noblesse quand ils ont été laminés par l'Angleterre. Il a félicité tous les joueurs anglais, il les a pris dans ses bras. Je trouve qu'il s'est grandi lors de cette défaite.
Et enfin vous, David?
Moi j'ai bien aimé, et ça va surprendre nos plus fidèles auditeurs, le VAR. Parce que habituellement, je suis...
Ah bah dis donc.
Mais non, mais parce que je trouve qu'il y a une application du VAR qui enfin a été intelligente. Ça fait des mois que le VAR nous pourrit notre football avec des interventions vraiment trop longues. On comprend pas ce qui se passe, etc. Et là, ça a été quand même, je trouve, nettement mieux géré. Voilà, on n'est pas systématiquement allé vérifier les occasions. On a beaucoup davantage fait confiance aux arbitres. On les a laissé vraiment gérer le jeu. Et je trouvais que c'était beaucoup plus fluide et beaucoup plus agréable. On se rapproche de quelque chose d'acceptable, je trouve, dans l'utilisation du VAR.
C'est peut-être dommage, en regardant les images, il y aurait peut-être un arbitre qui aurait vu qu'il y avait un penalty litigieux et deux ballons sur un terrain.
Ouais, mais
évidemment qu'il y a toujours.
On peut toujours faire mieux. Penalty litigieux, ça fait penalty, hein, je vous signale. Penalty litigieux, c'est penalty.
Oui, mais
il n'y avait pas un penalty. Jamais de la vie avec penalty.
On ne va pas faire le débat sur le penalty. Il
n'a
pas été vérifié. Bon, on va passer à l'équipe de France quand même. Zidane peut chercher un plan B, mais pas que B comme bleu, puisque Didier Deschamps va rester à la tête de l'équipe de France. Le sélectionneur a rencontré son président à Guingamp mercredi et pas de surprise, on ne change pas une équipe qui gagne même si elle a perdu. Alors tout ça pour ça, est-ce que la Bretagne a accouché d'une souris? Pourquoi cette réunion finalement?
C'était nécessaire, médiatiquement déjà on ne pouvait pas passer à la suite comme ça sans cette petite mise au point. Noël Le Graët a expliqué qu'effectivement il y avait des choses à revoir, qu'il avait aussi envie d'entendre Didier Deschamps pour tester un petit peu sa motivation, voir s'il y avait encore de l'énergie, des ressorts.
Il y a le téléphone.
Oui, mais quand même, de visu, c'est quand même autre chose. Encore une fois, déjà, médiatiquement, c'était indispensable. Donc, je pense que sa décision, de toute façon, a été déjà prise. Et c'était déjà entendu que Didier Deschamps allait poursuivre son aventure à tête des Bleus. Et moi, je trouve ça plutôt normal, en tout cas, que ça soit passé comme
ça. C'est de la politique. C'est de la politique. Le président de la Fédération. Quand vous avez un problème politique, tout de suite, on crée une commission, on se donne le temps de la réflexion, etc. etc. Puis à l'arrivée, ça ne change pas grand-chose, voire rien du tout. Donc là, c'est ce qu'il fait, le Gret. Il sait très bien qu'il va le garder, Deschamps, à la sortie. Donc il dit, on va se donner le temps de la réflexion, voilà, on se donne rendez-vous, et puis tout le monde plonge dans la manœuvre, et à l'arrivée, effectivement, il confirme Deschamps.
On ne va pas se donner rendez-vous dans 10 ans, c'est pas Patrick Bruel, là, il y a quand même une Coupe du Monde dans un an et demi. Hein.
J'ai adoré, vous avez l'air un peu d'avoir l'esprit critique. Moi, j'ai adoré Le Gret. J'ai adoré Le Gret.
Le repas ?
J'ai adoré tout. J'ai adoré Le Gret qui prend un peu de hauteur. J'ai adoré Deschamps qui va là-bas. J'ai adoré les décisions. Le staff. Mais moi, je pensais qu'il allait virer des éléments du staff. Mais non. En fait, Deschamps, il
tout
est conforté. Deschamps est conforté. C'est-à-dire qu'il va jusqu'en 2022. Mais s'il veut rester après, il restera. Et Zidane attendra encore.
Mais s'il veut devenir président de la Fédé aussi,
ce serait naturel. Ils sont tellement amis. Et alors, la seule qui trinque, c'est Madame Ardouin de la FFF qui est
infusée.
Voilà, mais Deschamps et son staff confortés, et ça c'est magnifique parce qu'on va les voir revanchards et devenir champion du monde.
Oui, mais on prend les mêmes et on recommence. Oui. Est-ce qu'on risque pas d'avoir les mêmes résultats en recommençant?
Non, on va être champion du monde.
Ah,
non,
mais...
on devait être champion d'Europe aussi.
On devait gagner l'Euro, Gilles.
Hein, on a gagné la Coupe du Monde, on peut pas tout gagner non plus.
Alors, juste selon mes informations, en fait, pourquoi ça se passe comme ça? Parce que Deschamps et Noël Le Gret assument tous les deux. En fait, l'échec, de toute façon, il est assumé et c'est pour ça que du coup, ils ont beaucoup de perspectives, justement, avec les groupes qu'ils sont maintenant. Donc, ils veulent regarder ces perspectives et avancer. Après, il y a un autre élément, quand tu parles, Gilles, tout à l'heure, tu dis que tout le monde a été conforté. Attention, c'est quelque chose qui m'avait fait tilter. Didier Deschamps, habituellement, on conforte les coachs, c'est l'habitude, en tout cas, de Noël Le Gret, juste après la qualification. Là, cette année, il n'y aura pas, selon mes informations, des confortations des prolongations anticipées. En fait, ça s'est fait là comme ça, mais par deux raisons. Mais déjà, simplement parce que les contrats, ils couvrent déjà les Qatar et parce qu'ils voudraient se donner la possibilité de réfléchir après. Mon avis personnel et mon sentiment, c'est qu'après les Qatar, je pense que ça s'arrêtera là. Pour moi, Noël Le Gret et Didier Deschamps, de toute façon, le fait de ne pas prolonger avant, je veux les dire, ils sont complètement aligné. Ça convient à tous les deux.
Non, mais donc, de toute façon, de facto, s'il gagne la Coupe du Monde, il aura sans doute envie de partir à la Aimé Jacquet.
Il voudra peut-être gagner l'Euro, parce qu'il sera un bon chat.
S'il gagne la Coupe du Monde, il reste.
S'il gagne la Coupe du Monde, il s'en va. Et s'il perd, on lui demandera de partir. Donc, dans les deux cas, il s'en va.
Ça fera plus de 10 ans qu'il sera en poste.
Mais justement, là-dessus, il y a eu cette interview dans l'équipe cette semaine de Louis van Gaal, ancien sélectionneur hollandais, peut-être futur d'ailleurs, qui a été entraîneur aussi de l'Ajax, du Bayern et du Barça, qui disait que voilà, en gros, bizarrement, les favoris ont échoué comme le Portugal, la France ou l'Allemagne parce qu'ils avaient un sélectionneur qui était là depuis trop longtemps et voilà, ils touchent à rien, ils ont confiance en leurs joueurs. Voilà, ils pensent que l'équilibre entre les joueurs et le coach est un peu.
Mais non, c'est quand même intéressant.
Van Gaal, j'ai l'indignité du football. Ce Van Gaal, moi je l'ai connu une fois en interview, mais qui juge Deschamps, c'est une honte et je ne comprends pas que l'équipe se soit abaissée à ça.
Oui, mais
j'ai vu votre tweet après et je me suis dit que si on en parlait, je vous dirais. Franchement, c'est pas bien de relayer les propos de Van Gaal.
Vous auriez pu m'appeler.
J'ai vu une fois Van Gaal en interview, je l'ai vu une fois. Pour lui, il n'y a pas d'homme qui tienne. Les joueurs sont des numéros. Le 6, le 4, le 3, le 2. Demandez aux joueurs. Moi, je connais un joueur.
C'est pas le seul,
Non, mais ceci dit,
Guardiola, il connaît pas les noms des joueurs.
Il y a une formule qui résume bien quand même Van Gaal. C'est souvent, il se prend pas pour Dieu, mais pour le père de Dieu.
C'est pour vous dire un petit peu.
On n'est pas là pour faire le procès. Mais qui se taise? Non, mais ce qu'il dit, quand même, ça s'entend.
Mais pas du tout.
On a trois sélections.
Non, mais alors, j'ai une question.
Si je plonge dans le guide de l'Euro aux éditions Sola, je demande juste qui est-ce qui a été champion d'Europe le plus après le plus longtemps en poste? C'est Helmut Schön avec l'Allemagne en 1972, 16 ans il était en poste, depuis 16 ans.
Mais c'est pas la même
Hidalgo, 11 ans dont 3 ans comme adjoint,
pas autant de matchs.
Joop des Rois et Bertie Vogts aussi, les Allemands 10 ans. Donc les Allemands gardent leur sélectionneur longtemps, on le voit. Joachim Löw, lui, il a fait 15 ans. Sinon les autres, même Vicente Del Bosque, c'est 4 ans, 3 ans, 2 ans et demi. Donc effectivement, c'est très rare d'avoir des entraîneurs, à part donc les 4 que je viens de citer, donc les 3 Allemands.
Il y avait moins de médias et moins de matchs,
voilà, qui reste aussi longtemps, oui, et des Deschamps après la Coupe du Monde 2022, ça fera 10 ans et demi qu'il sera en poste.
Non, mais du coup, ce que dit quand même Van Gaal, on peut l'entendre. Bah oui, est-ce qu'il n'y a pas une forme d'usure du pouvoir quand même? Mine de rien, on crée des habitudes et puis on a du mal à se réinventer.
Complètement. Dans l'analyse qu'on a pu faire à la suite de l'Euro, on était tous quand même globalement d'accord pour dire que Didier Deschamps avait perdu un petit peu la maîtrise qu'il avait du groupe, la gestion des égos était plus aussi évidente, et effectivement, pour des raisons d'égo, parce qu'à un moment, il y a une question d'usure qui s'installe et on peut le comprendre. Je veux dire, quelque part, c'est humain. Donc, moi, ce que je trouve que ce que dit Van Gaal, ça coule un petit peu de source. Enfin, je veux dire, moi, ça ne me choque pas.
Je trouve que c'est une conclusion facile au vu des résultats. Évidemment que si la France avait gagné ou les Portugal étaient encore
il
s'appuie sur ce qui s'est passé.
C'est des signes qu'il fait. Il s'appuie sur les faits qu'il y a une défaite. Il aurait pu dire la même en 2018 parce qu'on disait que la France, qu'elle les joue, que c'était UC, etc. Mais finalement, la France gagne la Coupe du Monde.
Oui, mais sauf qu'ils avaient perdu l'Euro avant. Et du coup, tu as des ressorts différents.
Oui.
Bah oui, et ça change tout. Non, mais je pense que sur ce qu'il dit, quand même, enfin, Gilles, sur le fond, que tu trouves ça. Parce que le personnage, effectivement, est très clivant.
Il est clivant. Voilà. Ça,
je comprends. Mais sur ce qu'il dit sur le fond, je vois
pas
tellement.
Il dit qu'on n'est pas une équipe. Enfin,
non, mais ça, c'est
dit...
autre chose. Là, on parle de l'usure.
Oui, il a dit aussi que la France n'est pas une équipe.
Et lui, il veut revenir une troisième fois comme coach. Alors l'usure, il connaît, lui. Comme sélectionneur des Pays-Bas. Non, mais arrêtez. Deschamps.
Oui, mais il n'a pas le choix. Les Pays-Bas, ils ont trois gars sur lesquels ils tournent tout le temps.
Bah oui, mais nous, on en a deux. On a Deschamps et Zidane. On va aller au bout de Deschamps et après on aura 10 ans ou 12 ans de Deschamps.
On sera bien allé au bout du bout du bout de Deschamps.
Ouais.
Et vous pensez vraiment que qu'est-ce qui peut changer Deschamps là? Parce que finalement, la Coupe du Monde, c'est demain.
Reprendre la main.
Oui, mais comment?
Ça va être beaucoup plus autoritaire.
Mais serrer la vie, c'est pas Monsieur Bricolage.
Un management plus autoritaire comme avant, un système tactique plus rodé. Là, il y a eu trop de pas de déliquescence, mais de fluctuation. Et là, il va reprendre tout ça en main.
Ou pas autant peut-être bricolé quand on est déjà. Mais ça, c'était lié aussi au staff et on l'a dit, Reddy et tous les manques qu'il y avait. Mais moi, bricoler et peut-être moins préparer sur les champs, mais essayer de faire une bonne préparation en amont.
Bon, on va faire un petit point sur les réseaux sociaux avec Baptiste Durieux. Bonsoir Baptiste, vous allez bien?
Salut Florian, quel plaisir, bonsoir à tous.
Alors le compte RTL Foot sur Twitter et Facebook, j'imagine pas mal de réflexions, notamment sur Didier Deschamps qui est maintenu à la tête des Bleus.
Bien sûr, on va commencer par Ryan du coup sur l'équipe de France. Il nous dit: Deschamps a tout raté sur cet Euro, tactiquement, sur le management des hommes, sur les choix, sur tout, absolument tout, mais il a tout réussi ou presque sur les 9 dernières années, donc c'est bien qu'il ait été maintenu, surtout que les joueurs ont été sondés et ont validé. L'erreur aurait été de propulser trop rapidement Zidane à quelques semaines d'une demi-finale de Ligue des Nations face à la Belgique et surtout à un an et demi à peine de la Coupe du Monde. Un petit message sur Tristan, je vais quand même le lire, liberté d'expression, la maison de retraite pour Louis Van Gaal, qu'il se taise et qu'il donne des conseils aux Pays-Bas, ils en ont besoin. Et puis on a eu un petit message aussi sur la finale de cet Euro qui nous Brexit tous, n'est-ce pas, comme le dit ce cher Florian. Le message de Julien, il nous dit, les équipes sont belles, l'affiche est aussi alléchante que logique, la confrontation sera tendue comme une crampe et on adore. En revanche, nous dit Julien, ce sera le pire match de l'Euro, archétype du 0-0 horrible qui finira au tir au but, ou alors autre scénario, 1-0 sur un contre son camp avec l'équipe qui marque et qui fermera tout en mode triple catenaccio. Donc pas très optimiste.
Là, c'est pas impossible, hein. Les Bleus ont perdu au tir au but face aux Suisses, qui ont perdu au tir au but face à l'Espagne, qui a perdu au tir au but face à l'Italie. Donc normalement l'Angleterre battra l'Italie au tir au but. C'est écrit. Allez, dans un instant, on va ouvrir une grosse page mercato pour évoquer la folie des grandeurs du PSG en recrute XXL à Paris avec l'arrivée cette semaine de Sergio Ramos et la frénésie de transfert de l'OM. Le président Pablo Longoria ne marche pas à la tisane mais au Red Bull. Il signe des jeunes recrues à tour de bras. Allez, on refait le mercato après la pub sur RTL.
RTL,
on refait le match. On refait le match sur RTL
avec Florian Gazan.
On refait le match sur RTL jusqu'à 20h avec Cindy Colmenares, David Aiello, Xavier Barret et Gilles Verdez. Alors notre bonne vieille Ligue 1 reviendra le week-end du 8 août et on fait le match aussi d'ailleurs, hein, j'en profite pour vous le signaler. L'occasion de découvrir le PSG New Look qui est en train de se façonner un mercato spectaculaire, le plus spectaculaire depuis la double arrivée de Neymar et Mbappé. Dernière recrue en date, le légendaire défenseur espagnol du Real Madrid, Sergio Ramos, 35 ans et un palmarès aussi rempli que son corps en tatouage. Il a tout gagné, mais le PSG gagne quoi à le recruter?
De l'expérience, forcément. 35 ans, 4 Ligues des Champions, vous l'avez dit, Coupe du Monde, Euro, enfin, il a tout gagné. Également une personnalité qui manque peut-être jusqu'à présent au vestiaire parisien avec beaucoup de charisme, beaucoup d'autorité. Alors, Il l'avait de fait au Real Madrid parce qu'il avait l'ancienneté. Je pense que le palmarès et son aura lui donnera également cette légitimité au sein du vestiaire parisien. Donc, il vient essentiellement pour ça, parce que on peut pas dire que la charnière parisienne, c'était le point faible de l'équipe ces dernières années. Mais il se trouve qu'il manquait un leader charismatique qui a jamais existé quasiment au sein de ce projet-là. Et il vient combler ce manque.
Pour vous, c'est le chaînon manquant du PSG, Ramos?
Moi, je suis beaucoup plus sceptique sur sa venue. Je pense que s'il était vraiment au top, y compris physiquement, le Real l'aurait gardé. Le Real n'est pas fou, jusqu'à preuve du contraire. Je pense qu'il va déstabiliser quelqu'un comme Kimpembe, et ça me déplaît profondément, parce que la formation parisienne, on dit où elle va, ben là on en a un pur produit et on risque de le laisser au bord du terrain, et ça me choque profondément. Et puis quel Ramos, est-ce que c'est un joueur qui vient en semi-retraite? Peut-être
c'est pas
le genre
de la maison.
Gros dos. Non, mais
c'est pas non plus Beckham, Gilles.
Non, je ne suis pas aussi enthousiaste que David, par exemple. Mais je respecte son enthousiasme.
J'étais pas enthousiaste, je décrivais ce qu'il pouvait apporter.
Après, j'entends.
Mais ceci dit, pour le coup, au contraire, je rejoins tes réserves. Déjà, d'une part, je trouve que pour la Ligue 1, c'est un coup formidable parce que c'est l'un des joueurs les plus emblématiques de ces 20 dernières années. On peut le mettre dans le top 5 des joueurs les plus populaires.
Une notoriété incroyable.
Voilà, une notoriété incroyable. Donc je trouve que pour la France et la Ligue 1, là, effectivement, je suis enthousiaste. Pour le Paris Saint-Germain, au contraire, je partage tes réserves. C'est pas évident, effectivement, que l'équilibre du vestiaire soit forcément harmonieux avec cette arrivée. Ça peut aussi créer des tensions.
Oui, mais ça va contrebalancer justement l'influence peut-être trop grandissante de Neymar.
Donc c'est de la politique.
Oui, je pense, moi, clairement. Mais de toute façon, on sait que le Paris Saint-Germain, c'est un club politique. Donc là, vous prenez Sergio Ramos parce que forcément, déjà, vous occupez les médias du monde entier qui font un focus sur le PSG. C'est ce que recherchent les dirigeants qataris. Et puis derrière, il vous apporte quand même un vrai vécu, une exigence du très haut niveau que n'a pas Neymar. On le sait très bien, Neymar, il va faire des éclats de temps en temps, mais après il a pas cette rigueur dans son hygiène de vie.
Mais ça, Xavier, tu vois, Buffon devait la porter, Dani Alves devait la porter, Beckham devait la porter.
Dani Alves,
il était venu pour ça aussi.
Non, Dani Alves, il était venu
parce que
Neymar arrive.
D'accord, mais il a quand même été recruté aussi parce qu'on disait c'est un compétiteur, il a tout gagné. Enfin, c'est quand même le joueur qui a gagné le plus de trophées sur la planète football. Donc il était arrivé aussi avec cette exigence.
Dani Alves, enfin, je me souviens aussi cette phrase de Mourinho disant que c'est un imbécile. Donc, c'était pas le joueur qui a pas le vécu, il a pas l'expérience, il a pas le charisme, il a pas l'autorité de Sergio Ramos. Ramos, c'est le capitaine du Real Madrid, quand même. Donc, et de la sélection espagnole. C'est un joueur qui va arriver dans le vestiaire. Alors, même si effectivement, il parle pas français, mais bon, il y a beaucoup de latino.
Il y en a beaucoup qui parlent pas français dans le vestiaire. Hein. Donc, Maria parle toujours pas français.
Il va forcément avoir des gens pour l'écouter et pour le suivre. Ouais. Et je pense que si Gilles Verdez parlait à juste titre des jeunes, Kimpembe, Mbappé, d'autres. S'ils suivent Neymar dans ses virées nocturnes, bah forcément c'est pas le bon exemple. Si Sergio Ramos les recadre de temps en temps, peut-être qu'ils feront plus attention.
Donc c'est le père fouetteur, c'est un peu ce qu'était Zlatan au début quand il est arrivé à Paris.
Non, en fait, moi je pense qu'au PSG, il manquait vraiment une forte personnalité. Vous savez, le PSG n'a jamais réussi à remplacer un peu des joueurs comme Thiago Motta, vraiment des personnalités fortes du vestiaire. Donc déjà, il y a ça, l'expérience, les charismes, les côtés excellents joueurs défensifs, il est loin d'être fini. Et un détail qui vous a peut-être échappé, c'est que Neymar est dans les coulisses pour l'arrivée de Sergio Ramos. C'est tout simplement, ils se sont rencontrés en 2017 à Miami, en fait à l'époque...
En boîte de nuit. En boîte de nuit.
Non, la salle de gym.
C'était pour un tournoi en fait, de foot, donc lui il était au Real, évidemment Neymar était au PSG, mais avec un pied dedans, un pied dehors, et à l'époque il lui faisait des appels de pied, Sergio Ramos, pour que Neymar vienne au PSG. Et puis finalement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est le PSG qui arrive à voir. Et Neymar qui les garde. Et puis Sergio Ramos qui les fait venir. Donc je pense qu'en tout cas, c'est tout bénéf et c'est gagnant pour les Paris Saint-Germain.
Justement, on parlait de ce vestiaire. Par exemple, Sergio Ramos est très ami avec Keylor Navas. Or, Paris a recruté Donnarumma, le gardien italien, qui va peut-être être le meilleur gardien de l'Euro. Alors quand ils l'ont recruté, il y a 3-4 semaines, on n'était pas sûr. Mais là, on a vu l'Euro qu'il a fait. On se dit, bon, ça va être compliqué. Donc voilà, on va quand même rentrer dans un jeu d'échecs très difficile.
Ça va être intéressant de voir s'il est plus diplomate, s'il a un rôle un petit peu justement de facilitateur, d'arrondir les angles et d'aider quelque part Pochettino dans cette démarche-là, ou s'il s'inscrit dans cette logique qui est actuellement celle du vestiaire parisien avec un clan de sud-américain, donc en gros d'hispanophone, dans lequel il pourrait évidemment logiquement et naturellement s'intégrer.
Pas forcément, s'il va se mettre
un peu... Non, mais ce qu'on va attendre de lui, c'est pas ça, c'est qu'il se mette au-dessus de la mêlée et qu'il vienne un petit peu...
Il est avec les Brésiliens.
La statue du commandeur.
Ouais, la statue du commandeur, c'est le collectif qui doit primer.
Moi, ce qui me peine par rapport à ce que tu as dit de Donnarumma et de Navas, et ce qui me peine beaucoup, c'est que Navas a déjà vécu cette situation au Real Madrid.
Avec Courtois,
souvenez-vous.
Oui. Et il est parti.
Oui, et maintenant voilà, il fait des très bons matchs. Navas, on lui amène un concurrent qui est très bon, et j'en suis ravie que le PSG l'ait. Mais voilà, ça me peine toujours de voir cette situation avec Navas qui mérite son poste.
C'est une grande romantique. Oui,
je suis pas sûr que cette sud-américanisation du vestiaire incite Mbappé à rester, hein, parce que la grande question, c'est est-ce que Mbappé va rester. Moi, j'en suis pas du tout sûr.
C'est Neymar, c'est Marquinhos, je suis pas du tout sûr que ça lui plaît.
Non, mais je suis pas du tout sûr.
Il voulait des grands joueurs.
Ouais, il voulait des grands joueurs. Quand il va voir que Navas est en concurrence, quand il va voir que Kimpembe risque d'être tricard, je suis pas sûr que ça lui plaise tout ça. Et si ça tarde tant aussi, c'est parce que je suis pas sûr que ça soit. Parce que pourquoi il recrute le Qatar pour la Coupe du Monde 2022,
pour une équipe de rêve, gagner Ligue des Champions cette année-là,
et pour que Mbappé reste. Bah, je suis pas sûr.
Alors justement, on parle de Mbappé. Bon, Mbappé qui finalement est quelque part le nouveau directeur sportif du PSG. Alors là, cette semaine aussi, autre rumeur, Paul Pogba au PSG. Des discussions auraient lieu. Alors, est-ce que c'est bien raisonnable? Là, ça devient quand même, c'est le FC Hollywood là, qui est en train de se former.
En plus, je pense qu'il y a un côté peu bling-bling qui m'effraie un petit peu pour l'image. C'est-à-dire que jusqu'à présent, finalement, on s'est fait à l'idée que le Qatar injectait beaucoup d'argent dans le Paris Saint-Germain, parce qu'on sait aussi que voilà, ça permet à la Ligue 1 un petit peu de briller enfin au niveau européen et d'exister. Puis ça rejaillit un petit peu sur tout le championnat plus attractif. Et finalement, cette notion d'argent qui coule à flot, on l'a un petit peu oublié. Là, je trouve qu'avec cette accumulation de noms ronflants, même bling-bling qui s'accumule.
D'ailleurs, le fair play financier, on l'embrasse, mais il est où là?
Il n'existe plus. Manchester City l'avait dynamité.
Je trouve qu'en termes d'image, là, il pourrait y avoir un truc. S'il venait à remporter la Ligue des Champions de cette manière-là, on pourrait dire bah oui, mais là, forcément, vous avez. C'est trop facile. Quoi.
On se rappelle que quand le Real avait monté les fameux Galactiques avec Beckham, Ronaldo, etc., ils ont gagné un titre de champion, une Super Coupe d'Espagne et une Super Coupe d'Europe.
Il n'y avait pas une paupérisation partout ailleurs. Là, il y a une paupérisation partout ailleurs. En France, ils vont écraser la Ligue 1, mais ça, c'est normal. Ils ont perdu le titre et maintenant ils vont écraser la Ligue 1. Mais s'ils écrasaient l'Europe, moi j'y crois pas trop, mais s'ils écrasaient l'Europe, là on se dirait effectivement, mais à quoi ça rime quoi?
C'est pas trop facile, ce serait.
De toute façon, aujourd'hui, quels sont les clubs qui peuvent acheter sur la planète foot?
Manchester City
et le Paris Saint-Germain. Voilà, parce qu'ils ont des actionnaires, effectivement, des États qui ont beaucoup d'argent. Les autres, ils regardent.
En tout cas, on sait ceux qui doivent vite dégraisser, comme les Barça, qui sont en forte difficulté. Donc, oui, après, moi, je pense, pour revenir au sujet d'Mbappé et comment il va se sentir avec l'arrivée de Sergio Ramos, moi, je pense qu'Mbappé, de toute façon, ce qu'il souhaite, c'est d'être dans une équipe qui remporte la Ligue des Champions. Et moi, je pense que Sergio Ramos est vraiment l'élément défensif qu'il faut à un club comme le Paris Saint-Germain pour pouvoir les faire.
C'est une équipe qui lui permet de remporter le Ballon d'Or aussi. N'oubliez pas ça. C'est ça qu'il veut, Mbappé.
C'est pas forcément la même chose. En gagnant la Ligue des Champions, il a plus de chances de remporter le Ballon d'Or.
Ça peut aider. Bon, allez, après le mercato du PSG, place à celui du rival éternel, l'OM. C'est moins clinquant au niveau des noms, mais c'est très alléchant. Ouais. Marseille, après avoir initié un virage en engageant le coach volcanique Sampaoli, renouvelle son effectif en profondeur. À Marseille, on n'a pas de pétrole ni de gaz comme le Qatar, mais on a des idées, bonnes ou mauvaises. On en parle après être allé droit au pub sur RTL.
On refait le match.
Florian Gazan sur RTL.
On refait le match sur RTL jusqu'à 20h avec Sidney Colmenares, David Aiello, Xavier Barré, Gilles Vernez et Baptiste Durieux, émission interactive. Alors, les réactions sur ce mercato XXL du PSG, mon cher Baptiste.
Mais vous avez prononcé les mots mercato et PSG, du coup Twitter s'enferme évidemment.
Oui, je sais.
Alors, Louis qui est très drôle. Il nous dit, j'étais en train de faire une sieste et je repensais à Sergio Ramos, du coup, en vous écoutant. Et je me suis dit, Sergio Ramos à Saint-Symphorien, Sergio Ramos à Francis Leblay, Sergio Ramos à Clermont-Ferrand, Sergio Ramos qui échange son maillot avec Nicolas Palois, par exemple. Sergio Ramos qui serre la main à Michel Derzakarian. Effectivement, Paris est magique, c'est le constat de Loïc. Message de Bruno qui est beaucoup plus footballistique. Il nous dit Ramos coche toutes les cases, celle de l'opportunité de marcher déjà, c'est-à-dire que Ramos est libre, évidemment que tu le prends. La case du sportif, un troisième central de haut niveau en cas de blessure pour la rotation ou alors pour jouer à 3, c'est parfait. La case du leadership, du professionnalisme, de l'expérience, de l'exemple. Et on sait tous qu'au PSG, ils en ont bien besoin. Et la case marketing, évidemment, 150 millions de followers sur les réseaux sociaux. C'est la meilleure recrue du PSG à tout point de vue avec Zlatan et Thiago Motta. Et puis un petit message sur Pogba aussi, on a Dimitri qui nous dit Florian a totalement raison, c'est le FC Hollywood, des bons profils, mais quelle cohérence, dans quel projet vont s'inscrire ces recrues, pour quelle identité de jeu, avec quel entraîneur sur le long terme, avec quel système, quelle animation. Je préfère des profils moins clinquants mais plus ciblés et plus précis.
Merci Baptiste, et on prévient Sergio Ramos qui se mettra un petit peu d'eau sur la nuque parce qu'il commencera sa carrière en France au Stade de l'Aube face à Troyes le week-end du 8 août. Ah ouais, comment c'est fort. A tout à l'heure Baptiste, on va continuer à parler du mercato après celui du PSG. Place à celui de l'Olympique de Marseille. Alors ça recrute à tour de bras hein, sous l'impulsion du président ambitieux Pablo Longoria qui a l'air moins désespéré qu'Eva malgré des finances dans le rouge. Bye bye Thauvin, Germain, bonjour Guendouzi, Gerson, Under, De La Fuente, Balerdi, des jeunes à gros potentiel qui ont connu quelques retards par fois l'allumage. Qu'est-ce que vous pensez de cet OM New Look? Parce que là, vraiment, c'est un nouvel OM. Hein.
Moi, je comprends pas l'engouement. Il y a un tropisme Longoria qui me semble délirant, quoi. C'est-à-dire que le gars, il fait du bricolage, du rafistolage. Il laisse partir des bons joueurs. Il prend des joueurs quasiment.
C'est qui, pardon? Il vous dit, il laisse partir des bons joueurs.
Thauvin a quitté l'OM ou pas?
Oui, mais c'est un bon joueur.
Un bon joueur. Germain, il devrait partir. Moi, j'aime bien Germain. Bah oui, mais vous me parlez. Vous me dites, ah oui, mais c'est les gros salaires.
On parle de Germain.
Oui, mais d'accord.
Exactement. C'est que. Alors, on laisse partir Germain et on prend qui? Des joueurs sans doute prometteurs, que certes semblent pas oliveux, des joueurs de duel, des joueurs rugueux. Alors moi, ça me fait pas du tout rêver ce Marseille-là, pas du tout.
Alors moi, je rêve complètement. Et puis je me dis que Longoria, au fait, au début, il avait une réputation d'être justement un ambitieux. Et en interne, il était assez redouté parce qu'on se disait, bon, il est un peu trop ambitieux, cet homme. Qu'est-ce qu'il va nous faire, etc. Là, je trouve qu'il a fait des bons coups. Il renouvelle. Il dégraisse là où il faut dégraisser parce qu'il y a des joueurs qui coûtaient extrêmement cher. Et donc, il est en train de les faire. Et surtout, là, on annonce une potentielle arrivée d'un Saliba des Arsenal qui peut vraiment venir compléter cet effectif.
En défense centrale.
Ouais. Moi, je pense qu'il est vraiment en train de nous faire un recrutement XXL. Et puis surtout, c'est très intéressant pour la Ligue 1 parce que si on aime notre championnat, c'est ce genre d'homme qu'on a envie d'avoir, qui bosse, qui nous ramène vraiment des joueurs qui sont bons et qui n'a pas besoin de payer des milliards pour d'avoir.
Mais là, mais pour l'instant, je suis désolé Cindy, mais comme on sait que Pablo Longoria est un fan de Football Manager, du football virtuel, on est en plein dans le virtuel. C'est-à-dire que là, tu nous dis c'est un mercato XXL et que c'est formidable, etc. Moi, j'attends de voir. Je ne dis pas que c'est nul, etc. Je dis juste que pour l'instant, il fait des paris. Enfin, il y a aucune valeur sûre. Et c'est normal parce qu'il
peut pas, on peut pas lui enlever, David, par exemple, Milik qui l'a fait venir. Franchement, l'OM cherchait un grand attaquant depuis des années. Milik, lui, il l'a trouvé.
Milik, c'est un bon coup. Mais pour, je parle du mercato qu'il est en train de réaliser actuellement. C'est que des paris. Enfin, Gerson qui s'est planté à la Fiorentina, à la Roma. Bon, bah, qu'est-ce qui. Très bien, il s'est remis au Brésil. Mais on a. Je veux dire, c'est pas. Il va pas chercher. Il peut pas d'ailleurs aller chercher des. Ils ont pas les moyens d'aller chercher des valeurs sûres. Donc. Bah c'est, en tout cas, il a le mérite d'essayer d'être un petit peu inventif, etc. Mais avant de s'emballer, j'attends de voir un petit peu ce que ça va donner.
Tu penses que Balerdi, c'est pas une raison de s'emballer ou la potentielle arrivée d'un Saliba?
Non, mais c'est Balerdi, on n'est pas en train de parler d'un joueur exceptionnel.
Mais après, il faut faire avec les budgets de l'OM.
Alors pour l'instant, on est sur des joueurs qui ont tous moins de 24 ans.
Oui, voilà. qui ont échoué souvent partout. Où ils sont passés. C'est des joueurs en échec. C'est le bal des revanchards.
Après, on sait, avant le mercato de l'hiver dernier, l'OM avait, je crois, 11 joueurs en fin de contrat à renouveler. Donc, on savait qu'il y aurait du renouvellement. Thauvin, Germain, les Japonais, les deux, là, Yagatomo et Sakai, tout ça. Bon, on savait que la plupart allaient partir. Donc, il fallait renouveler. Et ils n'ont pas, comme vous l'avez tous dit, ils n'ont pas les moyens de recruter des stars. Donc, il faut effectivement aller sur des paris. Jusqu'à présent, il ne s'est pas beaucoup trompé.
Moi, j'ai l'impression que Longoria, c'est la meilleure recrue de l'OM depuis des années.
On peut lui accorder ce crédit que ben il fait des bonnes pioches et que c'est pas pire que l'effectif qu'il y avait auparavant.
Ah non, mais donc, ça, on est bien d'accord. Jusque là,
c'est risqué.
Il prend des risques et on va voir un petit peu ce que ça va. Enfin, je veux dire, encore une fois, Gerson, c'est quand même 22 millions d'euros. C'est pas rien comme ça.
Un des meilleurs milieux de terrain du Brésil, au championnat brésilien.
Attendons de voir. C'est prometteur, mais moi, je m'emballe pas. J'attends de voir un petit peu ce que ça va donner.
Est-ce que le risque, c'est pas d'abord que comme ce sont des jeunes joueurs, ils vont se retrouver évidemment dans un contexte particulier. Ah oui. C'est Marseille, c'est un maillot qui parfois pèse plus lourd que Dimitri Payet au retour de vacances.
Est-ce que ça, c'est pas dit? Mais alors, pour le coup, là, il prend des joueurs quand même de tempérament en osmose avec l'entraîneur. Donc ça c'est bien, mais quand on prend le pari Luan Pérez, le grand défenseur là qui a échoué quand même, et il était à Bruges, il a échoué, donc Sampaoli le connaît, il le voulait, c'est 1m90, dans les duels, le pressing, etc. D'accord, mais est-ce qu'il va s'adapter très vite au championnat français? Moi j'ai des doutes, mais je veux pas être pessimiste, mais j'ai beaucoup de doutes.
Mais plus que s'adapter au championnat français, pour moi il faut s'adapter à l'environnement marseillais. Là je rejoins complètement ce que dit Florian, c'est-à-dire que signer à l'OM, et on l'a vu en plus cette saison avec ce qui s'est passé à la Commanderie, il y a des joueurs qui ont été traumatisés. Si Thauvin a voulu partir aussi, c'est parce qu'il a quand même vécu des choses qui sont insupportables pour un joueur professionnel. Donc, arriver à à composer un petit peu avec cet environnement, bah, c'est quand même pas donné à tous les joueurs. Donc j'espère, je pense que Pablo Longoria a tenu compte un petit peu de ce paramètre-là, parce que pour moi, il est essentiel. Je veux dire, des bons joueurs qui sont venus à l'OM et qui se sont plantés, il y en a des valises entières. Donc,
il y en a beaucoup, mais
ça compte énormément.
Après,
ça,
les joueurs français traumatisés par ce qui s'est passé, oui, c'est normal. Mais en Amérique du Sud, il y en a quelques-uns qui ont vécu des choses parfois pires. Hein. On n'en parle pas, mais...
Oui. Même au niveau de la vie au quotidien, en fait, avec des kidnappings, etc. Mais en fait, pour moi, je vous trouve assez pessimiste, parce que je me dis que surtout, vu des étrangers, en tout cas, là, je parle vraiment en tant que sud-américaine, pour les joueurs étrangers, venir à Marseille, c'est vraiment venir dans la ville du foot avec des stades inflammés, des choses qui...
Oui, c'est assez sud-américain, comme ville.
Autre qu'en Amérique du Sud, on ne voit pas, en fait. Donc, moi, je pense que ça va justement les porter, et que l'effet que ce soit des joueurs jeunes, c'est encore des joueurs qui sont malléables, et qu'on peut vraiment venir les intégrer parfaitement à un effectif.
Alors justement, moi j'ai une question quand même que je vous pose. Est-ce que c'est pas risqué de monter une équipe sur mesure pour Jorge Sampaoli? C'est ce qui se passe, alors qu'il reste généralement plus de 2 ans dans un club. Là, ça fait 6 mois. Non, mais c'est vrai, parce qu'après on se les traîne. On se souvient Rudy Garcia, tous ses achats, ils se les sont traînés.
Bien sûr que les salaires sont pas les mêmes. C'est son équipe, hein. C'est son équipe. C'est-à-dire que c'est des joueurs qui lui ressemblent. Effectivement, c'est un Marseille latino, mais ça c'est la couleur Sampaoli. Donc voilà, la couleur Longoria. Donc effectivement, si l'entraîneur part, à mon avis, après tous les joueurs vont partir aussi.
Après, ce qui peut être intéressant avec cette équipe-là, c'est quand on regarde par rapport aux forces en présence dans ce championnat. C'est-à-dire que bon, Paris, ok, ils vont être champions, ils vont écraser la concurrence, mais derrière, la deuxième place, elle est hyper ouverte. Avec un Lille, bon, qui pour l'instant, le projet, on sait même, je ne sais même pas si on peut appeler ça encore un projet ou un club.
Avec l'arrivée de Gourvennec cette semaine.
Voilà, donc on a juste eu un entraîneur qui arrivait là, mais au niveau du renforcement de l'équipe, notamment en vue de la Ligue des Champions, il ne se passe rien.
Lyon qui n'arrive pas à dégraisser.
Lyon qui n'arrive pas à dégraisser, Paris, ça n'arrive pas non plus. Donc là, pour l'instant, le club le plus actif en dehors de Paris, c'est largement Marseille. Donc ils ont peut-être en même temps, compte tenu de la concurrence qui se dégage actuellement, du plateau, là, enfin, je veux dire, aujourd'hui, Marseille fait figure quand même de prétendant sérieux à la deuxième place. Donc, il faut tenir compte de ça aussi. Ouais, avec Monaco,
bien sûr, c'est assez stable.
Monaco, pour l'instant, aussi. Ça bouge pas trop. Je suis très déçu de Monaco. D'habitude, ils vendent 54 joueurs, ils en ont 760. Il va falloir se bouger un petit peu du côté de Rocher. On a un petit message, Baptiste Durieux, sur les réseaux sociaux à propos du mercato de l'OM, j'imagine.
Absolument, message de Yvan qui nous dit que des bonnes idées. Est-ce que ça marchera? On n'en sait absolument rien, mais en tout cas, on n'en voudra pas du tout à Longoria d'essayer de travailler avec les moyens qui sont ceux de l'OM et de constituer très tôt un effectif plein de promesses en liaison avec son entraîneur, et ça c'est très important. Et Johan rajoute, de toute façon Longoria aime le football avant tout le reste, et ça c'est l'essentiel.
Ah bah c'est sûr qu'il est plus créatif que Zubizarreta, hein, ça je peux pas lui en dire. D'un côté moins c'est difficile. Ouais. Merci Baptiste. Dans un instant on va parler de deux joueurs du Barça qui ont des soucis. Antoine Griezmann qui se retrouve dans une grosse polémique à cause d'une vidéo postée sur les réseaux sociaux, et Lionel Messi, le meilleur joueur du monde, qui depuis une semaine est chômeur, le chômeur le plus riche de la planète. A tout de suite dans On refait le match sur RTL.
On refait le match sur RTL.
RTL, on refait le match.
Florian Gazan.
On refait le match sur RTL jusqu'à 20h avec Cindy Colmenares, David Ayello, Xavier Barré et Gilles Verdez. Antoine Griezmann dans la tourmente après la publication d'images de 2019 postées sur les réseaux sociaux où on le voit rire à des propos d'Ousmane Dembélé jugé raciste sur les Japonais. Manque de bol, c'est la nationalité du sponsor principal du Barça. Depuis, Grisou a été lâché par un de ses sponsors, lui aussi japonais, l'éditeur de jeux vidéo Konami. L'avenir de notre Grisou national est-il en danger ?
Oui, il est en danger parce qu'en plus, sa situation déjà sportive était particulière et la situation économique du Barça est catastrophique. Donc ça fait quand même un cocktail assez explosif. Certains même y voient une sorte de manipulation.
En tout cas, qui profite le crime.
Voilà, qui profite le crime. Une manière de tout simplement de se débarrasser de lui à moindre frais, parce que la caractérisation de faute grave pourrait s'entendre, pourrait se plaider. Moi, ce que je retiens également de cette affaire, c'est que je trouve qu'il y a une manière de s'excuser des footballeurs de manière générale sur les réseaux sociaux dans ces cas-là qui est catastrophique. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on essaie de nous faire passer par vous n'avez pas compris ce que je voulais dire. Si tu fais des excuses, tu fais des excuses et à la ligne. Là, dans les deux cas, on nous dit je suis désolé que mes propos étaient mal interprétés. C'est pas mal interprété, c'est tu t'excuses. Donc si tu t'excuses, tu dis je suis désolé et on passe à la suite. Là, il y a toujours...
Il a posté un message en japonais, hein, il faut rappeler.
Oui, ouais, mais aussi en français. Oui. Mais il y a toujours cette idée que, effectivement, c'était une discussion privée et j'entends que voilà, ça n'aurait pas dû sortir. C'est sorti. À partir du moment où ça sort, tu t'excuses sans aucune... sans mettre de circonstances à tout ça. Il n'y a pas de circonstances.
Et pourtant, des conseillers en communication... une lecture différente, ils disent que, en fait, c'est plus inquiétant le fait qu'il se soit excusé de la sorte, parce que en fait, à la limite, il aurait dû dire j'ai tenu des propos qui n'étaient pas adroits, etc. Mais pas
il les a pas tenus, hein. il a ri,
oui, qui a rigolé, mais qui est, oui, sous-entendu, mais qu'il n'en puisse pas dire, par exemple, qu'il a été discriminant ou qu'il y a eu du racisme, tu vois, la façon dont il s'excuse, on pourrait penser que c'est un joueur qui a tendance à être comme ça, alors qu'on sait qu'il est engagé.
On le sait qu'il n'est pas comme ça.
Il est engagé plutôt dans des batailles, dans des luttes.
Mais la vidéo, elle est très embarrassante. Le fond de la vidéo, elle est très embarrassante.
Le truc, c'est qu'il y avait déjà eu le blackface quand il s'était apparu déguisé en basketteur noir.
Mais il adore les basketteurs américains. Là encore,
ça fait un peu beaucoup quand même, non?
Non, c'est raciste. Non, c'est pas maladroit, c'est raciste.
Ça commence à être. Alors,
c'est raciste.
La chose est raciste.
C'est pas volontairement raciste, bien sûr, mais
ça, c'est une autre question.
D'accord, mais la
vidéo. C'est une autre question.
Pas tous en même temps, s'il vous plaît.
C'est un débat qui revient tout le temps, c'est de savoir est-ce que les personnes sont racistes ou ce qu'elles ont dit est raciste. Là, on ne dit pas que personne ne dira à cette table qu'Antoine Griezmann est raciste. Tu as rappelé son engagement dans plein de combats contre les discriminations. Il n'y a aucun sujet là-dessus. Mais ce qu'il a fait là, c'est pas excusable.
C'est quand même Ousmane Dembélé au départ. Hein, qui,
oui, en plus. Voilà.
Et effectivement, je pense que le Barça, s'il peut faire un package et les vendre, vendre tous les deux d'ailleurs à un club qui voudra bien les acheter, parce que c'est ça le problème, il sera très très heureux, parce qu'actuellement, ils ont un gros souci, c'est faire re-signer Messi. D'ailleurs, les recrues qu'ils ont pris à titre gratuit, puisqu'en fin de contrat, les contrats n'ont pas été validés par la Ligue espagnole, parce qu'ils n'ont pas le budget, tout simplement. La DNCG espagnole les bloque. Donc, il faut absolument qu'ils allègent la masse salariale. Il faut qu'ils fassent partir des joueurs. Et ça peut faire partie.
Vous ne dites pas, Xavier, quand même, que ça viendrait un petit peu, ça aurait pu fuiter.
L'histoire, elle sort deux ans après, quand même.
C'est un coup monté. Non, mais en fait, les Barça, c'est pas
qu'elle. On sait que c'est un coup monté. Non, mais c'est un coup monté.
On sait pas, mais disons qu'il y a une coïncidence.
C'est un coup monté par la direction du Barça pour virer nos joueurs français, parce qu'ils n'ont plus d'argent et parce que Koeman, juste à ce moment-là, dit, oui, je sais pas, pour Griezmann, oui, c'est un joueur indispensable, mais quand même, s'il devait partir, bon, voilà, quasiment, il est en train de dire, bon, ok, il peut partir, donc ils veulent le virer peut-être à Manchester City, et ils ont monté, sans doute, cette cabale, ce coup, parce que c'est dévastateur. Alors, c'est inadmissible ce qu'ils ont fait, mais que ça sorte à ce moment-là, c'est pas hasard. Donc, c'est un coup monté, à mon avis, par des proches de la direction des barbouzes, proche de la direction de Barcelone, pour faire éjecter nos joueurs français. Donc ça, c'est sale. Voilà, c'est sale.
Vous pourriez écrire pour Netflix, hein, Gilles. Ceci dit, bon, ça peut s'entendre.
Je crois qu'ils n'ont pas besoin de moi.
Oui, ça, c'est clair. Non, mais ceci dit, Griezmann a dit qu'il comptait poursuivre au Barça l'année prochaine. Est-ce qu'il doit partir, quoi qu'il arrive?
C'est compliqué de rester.
Il veut pas partir parce qu'il a eu plein de propositions et sa femme veut rester en Espagne. Elle est espagnole et elle veut rester en Espagne.
Sa femme.
Il y a peut-être un moment, il va devoir effectivement changer.
Il y a des joueurs qui font des décisions.
Moi, ma femme, elle est à Montpellier, je vais pas faire de la radio là-bas.
Je suis à Paris.
Pourquoi pas. Bon, tiens, on va parler de Lionel Messi quand même, autre Barcelonais, c'est peut-être qui, Griezmann et Messi. Cette nuit, la finale de la Copa América, quand même, Neymar face à Messi, et l'un des deux va enfin la remporter, c'est incroyable, mais c'est le cas. Si Messi gagne la Copa América, est-ce que pour vous, il sera Ballon d'Or?
Bah oui, c'est sûr, c'est certain, c'est écrit, il n'y a pas d'autre. Peut-être Harry Kane. Ouais. Si l'Angleterre gagne. Mmh. Mais sinon, ce sera Messi, parce que les Français ont échoué, parce que Lewandowski, c'était il y a deux ans, et là, il a été piteux avec la Pologne. Ce sera Messi.
Et parce que c'est Messi.
Et Messi, alors, d'accord, il sera Ballon d'Or, mais avec quel club? Parce que là, je le disais, mine de rien, quand même, depuis une semaine, Messi, il est chômeur.
C'est vrai.
Alors, Pôle emploi football, bonjour. Qu'est-ce qu'il doit faire Lionel Messi? Est-ce qu'il doit re-signer au Barça, qui a pas de sous, ou alors qu'il doit partir en MLS ou rentrer chez lui.
Mais ça, c'est pas impossible qu'il re-signe. MLS, sincèrement, je le vois pas encore. Je pense que oui, ça pourrait arriver plus tard, mais je pense pas que ce soit vraiment dans l'ambition des Messi. Et puis surtout, Messi, d'un point de vue, si vous demandez à n'importe quel argentin, est-ce qu'il vous dit, c'est qu'il lui manque un petit peu du palmarès, enfin complètement même, des palmarès internationaux. Donc là, il est complètement concentré.
Il va pas signer avec l'équipe d'Argentine, c'est pas un club.
Non, mais il va.
Peut-être un club de Ligue 1 qui serait ravi de l'accueillir.
Encore un?
Je sais pas si Kylian Mbappé venait finalement à partir cet été, qui d'autre pourrait le remplacer?
Haaland?
Peut-être que Kylian Mbappé voudrait jouer avec Messi et du coup rester aussi.
Bon, Messi, il doit aller où, franchement, pour vous?
Rester à Barcelone.
Barcelone.
Messi prépare tout pour se donner les moyens d'or. Ouais. Et ils vont tout faire pour. Toute l'Espagne fera pour lui pour qu'il reste.
On va les aider. On va faire une petite cagnotte litchi si ça peut les déboucher.
J'ai quelques centimes dans ma poche.
Bon, merci en tout cas à vous tous. Merci Cindy, David, Xavier, Gilles et Baptiste. Merci à vous de nous avoir suivis. Toujours plus nombreux cette saison. On revient le samedi 7 août pour la reprise de de la Ligue 1. Dans un instant, Fréquence Star avec Laurent Boyer. Passez une bonne soirée et un bel été sur RTL.
Passez un bon week-end sur RTL.
RTL, toujours avec vous.